pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight when the shark bites.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir dans quelques instants Cécile Baudin pour son dernier roman, La Constance de la Louve, donc aux presses de la Cité. Eh bien, on va parler avec elle de son dernier roman.
Sunday morning, baby, lies a body.
Voilà, eh bien, Cécile, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, Cécile, La Constance de la Louve, là, vous avez écrit un roman très épais, hein, parce qu'il y a beaucoup de pages, hein, donc vous avez été...
Et même pas d'images.
Et même pas d'images. Vous avez été très inspirée. Alors, on va parler un petit peu de vous, hein, parce que c'est vrai que, on va dire, dans un terme un peu trivial, que vous avez pas mal bourlingué, hein, vous, hein, dans votre vie, apparemment.
C'est une question d'âge, Jean-Pierre.
Ah bon, d'accord. Ah ben, je sais pas. Parce que vous êtes né à Lyon, apparemment.
Oui.
Alors, et vous vivez actuellement Seine-et-Marne.
Oui.
Donc, vous êtes rapproché des Parisiens. Vous avez travaillé dans une grande entreprise familiale de BTP. Vous avez créé votre propre entreprise de conseil. Et là, votre métier de DRH vous a permis de découvrir pas mal de métiers de main-d'œuvre, mais vous êtes beaucoup... baladé, hein, parce qu'en Lozère, dans la Nièvre, en Lorraine, en Île-de-France, en Charente-Maritime, en région lyonnaise, eh ben, on peut dire que vous, vous avez bougé quand même. Hein.
Bah oui, j'avais un papa qui travaillait dans une banque, en l'occurrence la Lyonnaise de banque, et qui était souvent muté en fait de petite ville en petite ville. Donc on a pas mal bougé, et c'est comme ça que j'ai découvert notamment la Lozère. Et plus tard, quand j'ai commencé à travailler, après 23 ans, j'étais dans un grand groupe qui voulait qu'on bouge tous les 2-3 ans, ce qui m'allait bien, parce que moi, j'ai toujours adoré les déménagements et découvrir des régions que je ne connaissais pas. Donc, ça a continué pendant ma vie professionnelle et presque tout au long de ma vie, effectivement. Donc, c'est assez rare que je reste plus de quelques années quelque part et je bouge et je tourne. Bon, je pense que je vais commencer à me calmer maintenant, mais effectivement, du coup, j'ai eu la chance de pas mal déménager.
Oui, on voit que vous avez la bougeotte, hein, comme on dit.
Ah bah oui, bah, écoute, on a un beau pays. Je suis ravie de ne pas m'être cantonnée à un seul endroit, parce qu'il y en a plein de super.
Alors, La Constance de la Louve, on va voir justement, vous nous parlez de la Lozère, et votre roman va se passer en Lozère, hiver 1835, on va découvrir un étudiant en médecine qui est mort devant l'asile d'aliénés, qu'il accueillait en formation. Alors, on dit qu'il serait perdu dans la tempête de neige. Bon, c'est ce que c'est les tempêtes de neige chez nous. Hein.
Oui.
Mais il y a un juge de paix, Saint-Albin, alors on connaît bien Saint-Albin aussi, qui est lieutenant de Louveterie. Et lui, il s'interroge un petit peu sur ce décès. Il n'est pas tout à fait convaincu. Il va être aidé par une infirmière de l'asile. Il met au jour une série d'incohérences et d'indices troublants. Alors, la piste encore fraîche le mène jusqu'au canton voisin où il déterre d'autres mystères plus anciens, plus obscurs qui impliqueraient les notables. Et bien sûr, en ce début du 19e siècle, dans une ruralité où les progrès scientifiques et technologiques se font entendre, on a l'ombre de la bête du Gévaudan qui plane toujours sur les monts de la Margeride. Alors, il y a eu beaucoup de bouquins, hein, écrits sur la... bête du Gévaudan, vous allez voulu écrire un roman un peu différent.
Alors, c'est pas du tout un roman sur la bête du Gévaudan.
Non, mais j'ai bien compris.
L'histoire se passe 70 ans après. En revanche, ce que j'ai su, en tout cas imaginé ou voulu imaginer, c'est cette ambiance qui prévaut à cette époque et qui suit aussi cette histoire qui est quand même assez extraordinaire, qui est quand même un des faits divers les plus incroyables de l'époque, enfin de la fin du 18e. Et j'ai supposé que dans les décennies qui suivaient, il planait encore quelque chose de ce souvenir, si vous voulez, y compris dans les légendes, dans les familles, dans les récits qui se transmettent et dans cette ambiance. Voilà. Il faut dire aussi que bon, mon roman se passe au début du 19e, on est contemporain de l'auberge de Perbeil également. Hein. Donc voilà, c'est plutôt une ambiance un peu mystérieuse et assez rude, hein, avec des faits divers marquants que j'ai voulu reconstituer. Et en ça, bon, bien sûr, la bête du Gévaudan, ça, ça l'incarne, mais c'est pas, c'est effectivement pas un roman sur la bête. Hein.
Non, non, mais ça, on l'a bien compris, puisque... Mmh. Mais bon, il y a une implication un peu bah, de ce mystère. D'ailleurs, on ne sait toujours pas, en fait, vraiment ce qui s'est passé. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup, j'ai reçu beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur la bête du Gévaudan, chacun un peu son idée, mais laquelle est la bonne ? Point d'interrogation. Donc, vous, ça va être cet étudiant en médecine qui est découvert mort et qui va poser quand même pas mal de questions.
Oui, parce qu'effectivement, ce lieutenant de Louveterie, va, parce que c'est un chasseur, il est habitué à repérer des traces que les autres ne verraient peut-être pas, bah, lui, il va les trouver. Et alors, il n'y a pas de quoi constituer un dossier très très sérieux. Puis on est à une époque où, et c'est ça qui est intéressant, on est à une époque où il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de vidéosurveillance dans les ruelles des villages. Donc, tout se fait à la déduction, à l'observation, aux hypothèses, pas avec des preuves difficiles à obtenir. Et c'est pour ça qu'il est obligé de mettre en œuvre une enquête assez longue et assez laborieuse pour résoudre cette énigme. Parce que le plus mystérieux, outre le fait que ce garçon, effectivement, est sorti d'un soir de tempête sans qu'on sache pourquoi, mais le plus mystérieux, c'est si ce n'est pas un accident et que c'est donc un meurtre, qui pourrait avoir eu un quelconque intérêt à organiser une telle mise en scène. Et c'est ça, finalement, ce mystère qui va inciter le juge à enquêter, parce qu'à cette époque-là, les questions de tueurs en série ou de modus operandi ne sont pas encore du tout, sont pas encore du tout étudiées. Donc, lui est très curieux de la méthodologie et du process.
Oui, parce qu'on pourrait classer l'affaire. Hein. On sait, bon, la neige... Hein. On sait qu'on appelle ça la burle hein, chez nous. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont morts à cause de la burle parce qu'on a l'impression qu'on est à côté de chez soi et puis finalement on se retrouve très très loin et puis on meurt de froid. Voilà, donc ça aurait pu être le cas de cet étudiant, mais apparemment ça interpelle ce juge de paix. Et alors il va se faire aider par... Pourquoi il se fait aider par une infirmière d'ailleurs ? Tiens d'abord.
Eh bien parce qu'il découvre qu'il a besoin de quelques compétences hein, pour étayer ses soupçons et mener son enquête. Et cette infirmière a des compétences en médical, bien sûr, et elle va l'aider sur ce registre-là, voilà, sur le registre médical qui est assez important dans l'histoire. Elle va lui apporter ses conseils. En fait, le juge, au fur et à mesure de son enquête, va devoir constituer autour de lui une petite équipe. Ce qui est assez nouveau pour lui parce qu'il a plutôt tendance à être un peu solitaire voilà. Et là il va devoir constituer une petite équipe notamment faite de femmes, ce qui est aussi un peu original pour lui parce qu'il vient effectivement d'un métier comme la louveterie, hein, très masculin et très viril. Donc tout d'un coup il faut faire appel à des compétences autres que les siennes et notamment celle de cette infirmière qui s'appelle Marianne et qui va beaucoup l'aider. Elle ne sera pas la seule à rejoindre cette petite équipe. Mais effectivement, elle l'aidera beaucoup.
Alors, ça va l'aider parce qu'on parle souvent du bon sens féminin. Hein, donc, est-ce que...
C'est un pléonasme.
Est-ce que ça va l'aider ? Parce que là, il part... Alors, oui, c'est vrai qu'à cette époque, il y a les notables, hein, puisque c'est un peu ça, autour de la bête du Gévaudan. Il y avait tous ces notables qui essayaient de découvrir ce mystère. Mais là aussi, il y en a... Alors, est-ce qu'il va être impliqué ? On découvre d'autres choses. Ça paraît une histoire très compliquée quand même.
Elle n'est pas forcément très compliquée, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle est étrange. Alors, c'est vrai qu'on parle des notables parce qu'on n'est pas très loin non plus après la Révolution française, où l'aristocratie un peu décimée, comme le clergé, ont laissé place ensemble, finalement, au développement des bourgeois et des notables de ces petites villes, hein, les notaires, les médecins, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de voir comment ces notables ont pris un espace laissé un peu libre hein, après la Révolution. Et puis, on va dire, un des thèmes de fond du livre, c'est les privilèges. c'est lorsque je suis privilégiée pour une raison ou pour une autre, à quel moment finalement mon privilège est légitime, à quel moment j'en fais quelque chose d'utile pour la collectivité ou de, voilà, de correct, et à quel moment je passe de l'autre côté d'une frontière invisible où je commence à abuser de mes privilèges. Et c'est ça qui est intéressant dans l'étude de ces notables, c'est à quel moment je me mets à abuser de mon privilège et qu'est-ce qui fait que je vais le faire. Voilà, qu'est-ce qui fait que je vais passer de l'autre côté d'une barrière morale que je m'étais fixée jusqu'à présent. Et c'est en ça que cette histoire essaye de répondre à cette question et met en scène ces notables qui sont tantôt des coupables, mais aussi tantôt des victimes.
Alors oui, mais ce juge de paix, finalement, il peut peut-être un petit peu déranger dans ses recherches, hein, parce que on avait l'impression que cette affaire était classée. Pas du tout, lui, puisqu'il va remuer quelques souvenirs qui peuvent en gêner certains.
Eh bien, forcément, puisque il va donc passer de Saint-Alban au canton voisin, qui se trouve être en tout cas Langogne, hein, pour la suite de son enquête, et forcément, il va fouiller dans le passé d'un certain nombre de personnes et des gens qui n'ont pas vraiment envie qu'on fouille dans leur passé. Mais il n'a pas le choix, parce que figurez-vous qu'il va se rendre compte qu'il est très possible que cette mort suspecte, hein, du jeune étudiant en médecine ne soit pas la première du genre et que d'autres et puis la précéder. Donc il est obligé de plonger dans le passé, dans l'histoire de ces grandes familles pour résoudre l'énigme. Mais bien sûr, certains n'ont pas forcément envie qu'on vienne fouiller dans leurs petites affaires personnelles et de famille.
Oui, alors lui, c'est sûr qu'il va être très dérangeant. Alors pourquoi d'abord on a voulu tuer cet étudiant? Parce qu'en fait, un étudiant en médecine, bon, en principe, c'est quelqu'un qui pose pas beaucoup de problèmes, hein, mais quel est le motif d'avoir, enfin, s'il a été tué, attention, hein, on pose toujours la question, puisque ça sera dit dans le roman, hein, à la fin, hein, mais qu'est-ce qui peut gêner, qu'est-ce qu'il a pu faire pour qu'on ait envie de le faire disparaître, quoi.
Et oui, c'est ça, surtout qu'on est à une époque où on meurt globalement beaucoup. On a des mortalités qui sont importantes pour tout un tas de raisons, parce que l'hygiène n'est pas forcément ce qu'elle est, parce que la vie est dure, parce que les conditions sont quand même très rudes, très âpres, beaucoup d'accidents, enfin bref. Et du coup, on se demande pourquoi on irait tuer un étudiant qui plus est d'une manière assez originale. Donc c'est effectivement tout l'objet de la quête de notre héros. Et c'est aussi là où, en termes notamment d'imagination et de recherche, il va avoir besoin de s'appuyer sur d'autres avis, d'autres visions du monde aussi, et notamment des visions féminines ou également d'autres générations, pour avoir une vision un peu plus large de son enquête et de sa problématique.
Oui, alors il va, c'est sûr qu'il va falloir beaucoup chercher, hein, parce que là, il s'est lancé dans une histoire. On sait que parfois on n'aime pas trop ressortir les anciens sujets, surtout à la campagne, surtout dans le monde rural et surtout dans ces années 1800. Donc lui, en remuant un petit peu tout ça, va sûrement déranger pas mal.
Oui, bien sûr, c'est aussi une époque d'un point de vue politique et social en général, hein, où il s'est passé beaucoup de choses. Alors, en l'espace de relativement peu de temps, en l'espace de cinquantaine d'années, il y a eu la Révolution française, il y a eu l'Empire, il y a eu les guerres de l'Empire, il y a eu vraiment toute une, sans compter bien sûr les faits divers dont on parlait tout à l'heure. Donc, voilà, chacun a dû se positionner par rapport à toute cette époque et toutes ces problématiques. Et c'est effectivement, ça va être effectivement dérangeant pour les gens sur lesquels va enquêter le juge. Voilà. Alors, c'est aussi, pour moi, c'était aussi intéressant, outre bien sûr l'enquête, de redonner vie à cette époque et à un patrimoine, hein. Alors, industriel pour partie, hein, c'est le cas notamment des filatures de laine, hein, où se déroule se déroule en tout cas un meurtre, pour tout dire. Voilà, donc c'est aussi une façon de redonner vie à patrimoine, à des usines, à cet asile à Saint-Alban que moi je ne connaissais pas, bien qu'ayant passé mon enfance à Langogne, je ne connaissais pas l'histoire de cet asile. Je l'ai découverte à cette occasion et elle est très très intéressante. Donc traverser ces familles et cette histoire, c'est aussi une façon de redonner vie à cette époque et à ces territoires.
Oui, alors Saint-Alban, alors d'ailleurs si je ne me trompe pas, il y a toujours un hôpital un peu pour gens...
Absolument.
Ouais, dérangé, hein, c'est ce
Absolument.
Qui me semblait. Ouais, ouais.
Oui, oui, tout à fait, c'est le centre hospitalier François Apocal.
Voilà, c'est ça.
Qui s'est développé à l'origine, vous savez, c'est le fameux château de Saint-Alban qui accueille l'office du tourisme hein, maintenant,
oui.
Et qui appartenait à la famille Morangiès et qui a d'ailleurs servi de point de ralliement, enfin un des points de ralliement en tout cas à l'époque de la Bête, qui est un très beau château, vraiment très beau, de pierre ocre, très joli. Et tout autour, au fur et à mesure du 19e, s'est développé cet asile qui est devenu donc un centre hospitalier et un hôpital psychiatrique hein, au sens de la psychiatrie moderne et qui existe toujours aujourd'hui puisque je m'y suis glissée pour essayer de trouver mes scènes, les lieux de mes scènes. Donc je me suis glissée entre les bâtiments à gauche et à droite, donc je confirme. L'hôpital est toujours là.
Oui, parce que alors, si je vous en parle, c'est comme j'ai pas mal joué au football. Et en Auvergne, et quand on jouait à Saint-Alban, on avait quelques personnes qui venaient au match, bon, qui étaient dans l'hôtel, justement dans cet hôpital psychiatrique. C'est pour ça que je m'en rappelle, parce que ça m'avait déjà, moi, un peu marqué.
Oui, et puis on y a inventé la particularité hein, de cet asile. Je l'appelle asile, mais c'est parce que c'est le terme du 19e. Hein. Aujourd'hui, on ne l'appellerait pas comme ça, c'est évident. Mais à l'origine, on y a quand même testé et inventé la psychiatrie moderne, c'est-à-dire celle qui consistait à considérer que les malades devaient pouvoir d'abord sortir de l'hôpital, faire des choses hors de l'hôpital, faire des choses de leurs mains, jardiner, être en contact aussi avec la population dite, entre guillemets, normale. Et cette vision un peu ouverte de l'hôpital psychiatrique a été quasiment, était très novatrice à l'époque et très originale. Donc, effectivement, je comprends que vous ayez ce souvenir. C'était notamment une originalité de l'hôpital de Saint-Alban. Et puis, c'est vrai que les asiles, d'un point de vue romanesque, c'est toujours un décor assez, assez mystérieux, assez évocateur, un peu inquiétant aussi. Hein. Voilà. Et puis le château est très beau, ces grandes falaises. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser un peu au Nom de la Rose, vous savez.
Oui.
Ces grandes bâtisses comme ça, aux murs très nus, comme des falaises, c'est assez impressionnant.
Alors, vous m'avez dit que le juge de paix s'était constitué une petite équipe avec beaucoup de la gente féminine. Il y avait une infirmière, mais est-ce que les autres venaient de milieux très différents ?
Alors, il y a qui rejoignent le juge pour travailler sur cette enquête. Il y a donc cette infirmière, il y a une jeune domestique, une jeune bonne également, et un étudiant en droit. En reconstituant effectivement les compétences de droit, de médical et local, parce que cette domestique parle patois, alors que notre héros ne parle pas patois. On est à une époque où tout le monde ne parle pas français, hein, début 19e. Le patois est encore très très répandu dans la région. Et pour tout un tas de raisons qui sont liées à son histoire, le juge de paix, le lieutenant de Vautrine, ne parle pas patois. Voilà. Donc c'est cette jeune bonne qui va l'aider à se glisser comme ça au milieu des populations, des villageois, des ouvriers, pour mener son enquête dans leur langue en fait. Donc c'est cette équipe de 4 personnes qui va travailler sur l'enquête tout du long. Voilà.
Oui, parce qu'il fallait que quelqu'un traduise. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait, ça durait même très longtemps après. Hein. On parlait souvent le patois. Hein. Moi, je me rappelle, même quand j'étais plus jeune, chez nous, lors des marchés, les paysans parlaient en patois hein, et pas souvent en français. Alors, en 1835, je ne veux même pas vous dire, hein, mais c'était la majorité qui parlait patois et très peu le français.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc,
et puis c'est aussi l'époque de l'émancipation des femmes qui, justement, commencent tout doucement. Hein, c'est encore très timide, mais commencent, bon, des gens en général, et des femmes notamment, commencent tout doucement à apprendre à écrire, à lire, voilà. Et à sortir tout doucement, en tout cas, d'une culture qui n'était que orale. Est transmise oralement. Donc c'est aussi pour ça que le patois était effectivement très 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 répandu.
Alors bon, dans cette intrigue, hein, la Constance de la Louve, on voit qu'il va falloir beaucoup chercher. On verra la chute. Enfin, nous on la verra pas. Hein, faudra lire le livre. Mais ça paraît quand même compliqué pour ce juge de paix, mais qui va rien lâcher. Hein. Lui, il veut vraiment, il a cette idée que finalement, c'est pas une mort naturelle, quoi. Voilà.
Oui, et puis c'est un chasseur dans l'âme, et il veut aller au bout d'une forme de traque. Donc, il ne veut pas lâcher sa proie, il ne veut pas lâcher son mystère. Il pourrait effectivement s'en fiche parce que, effectivement, comme vous le disiez au début, tout le monde s'en fiche. Quelqu'un, un accident dans la neige ou dans la tempête, c'est pas une grande originalité. Mais c'est un chasseur, et c'est parce que c'est un chasseur qu'il va tenir la piste jusqu'au bout pour comprendre ce qui a pu arriver à cet étudiant, et à travers l'enquête qui l'attend. Il va voir qu'il va dépasser bien sûr la question de l'étudiant en médecine pour mettre le doigt sur d'autres secrets, d'autres conspirations et bien sûr des gens qui ont plutôt intérêt à dissimuler un certain nombre de secrets et de choses personnelles. Voilà, mais il ne lâche rien, il est opiniâtre, et c'est d'ailleurs entre autres pour ça que le livre s'appelle La Constance, hein, c'est que il est aussi question de part et d'autre, hein, du côté de ce qu'on pourrait qualifier les gentils comme de ce qu'on pourrait qualifier les méchants. De part et d'autre, il y a beaucoup de patience, beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de constance. Et c'est ça aussi que moi je trouvais intéressant, parce que dans un monde actuel, avec beaucoup d'immédiateté, beaucoup de rapidité, beaucoup de voilà, là on est sur des histoires longues, on est sur des histoires de vie, on est sur des gens qui sont très opiniâtres et qui sont prêts à passer des semaines, des mois sur un sujet, sur une enquête, et aller chercher le moindre indice, à être très patient en fait. C'est aussi des histoires de patience, cette histoire.
Et je présume qu'on va essayer de lui mettre quand même des bâtons dans les roues, là.
Ah, bien sûr, on va lui mettre des bâtons dans les roues, il va être empêché, il va être menacé, il va craindre pour sa vie, et puis surtout, il va craindre pour la vie de son équipe, parce que notre juge, historiquement, c'est plutôt quelqu'un de très solitaire, qui n'est vraiment pas habitué à avoir des gens autour de lui, qui n'est pas habitué ni à aimer, et encore moins à être aimé. Et en constituant par la force des choses cette équipe et en avançant sur leur aventure, il va s'attacher à eux, il va apprendre à craindre pour d'autres que lui, et petit à petit, non seulement il va être menacé, mais ses collègues aussi, et finalement ça va le déstabiliser terriblement de se sentir comme ça, fragilisé par l'affection finalement. Cette ouverture au monde qui va se faire presque malgré lui, et puis à l'amour aussi, hein, parce qu'il va tomber amoureux. Cette ouverture au monde va le troubler profondément et le fragiliser.
D'accord, voilà, oui, il y a toujours une petite histoire d'amour dans les romans, hein, en général.
Alors, pas toujours.
Pas toujours, mais là, il y est.
Dans les précédents, il n'y en avait pas, par
d'accord.
exemple, mais là, je trouvais que ça s'y prêtait bien, et je trouvais que c'était joli, ce juge charismatique et taciturne qui finalement résiste à tout, au froid, au loup, etc., et qui, face à l'amour, se retrouve un peu bête, quoi. Voilà, je trouvais que c'était intéressant.
Alors bon, Cécile Baudin, La Constance de la Louve, aux Presses de la Cité. Alors votre couverture est assez sympa, très mystérieuse, hein, parce qu'on voit un loup avec un personnage. Alors, La Constance de la Louve, pourquoi ce titre? Parce que les louves sont des animaux qui ne lâchent rien.
Alors oui, Tout à fait. Alors, la constance, parce qu'il y est question de encore une fois, de patience, hein, de part et d'autre, hein, entre les héros qui enquêtent comme de l'autre côté, hein, il y a de la patience, donc c'est ça l'idée de la constance. C'est un jeu de mots dont on peut dévoiler assez vite le principe aussi, puisque bon, on comprend assez vite dans l'histoire que la jeune bonne, notamment l'héroïne dont notre héros va s'enticher, s'appelle Constance. Donc voilà, c'est aussi un jeu de mots pour mettre en évidence Constance. Et effectivement, parce que les loups, et notamment la louve, c'est un animal assez emblématique aussi, hein, très, très, alors, qui a pu être effrayant et qui est lui-même une espèce très résiliente. Hein.
Oui, puis on sait aussi que les loups vivent en communauté, hein, donc à plusieurs. Là, ça rappelle un peu dans le roman, ben, cette équipe qui s'est mise ensemble pour essayer de trouver le mystère.
Exactement, et c'est-à-dire que des gens qui étaient chacun un petit peu isolés dans leur vie pour des raisons diverses et variées, hein, la jeune bonne qui était une orpheline, le jeune étudiant en droit qui ne s'entend pas avec ses parents, le juge très solitaire et cette infirmière Marianne un peu seule dans son asile, et ben finalement ces gens assez solitaires vont constituer une sorte de meute, hein, pour résoudre l'énigme, avec ce que ça a de très rassurant et de très agréable aussi de faire partie d'un groupe. Mais en même temps, lorsqu'on commence à faire partie d'un groupe, on y perd un petit peu de son indépendance, on y perd un petit peu de sa liberté, il y a des rivalités de leaders, il peut y avoir de l'amour, des jalousies, et finalement, le livre raconte toute cette dualité entre cet équilibre, hein, qu'on cherche tous, y compris au XXIe siècle, entre la solitude, l'indépendance, la liberté... l'autonomie et en même temps devoir faire partie d'une tribu, d'un groupe, d'une famille, voyez, d'une entreprise au sens très large, et comment finalement on gère, comment on gère notre équilibre entre les deux, comment on se positionne entre les deux. C'est le cas de nos héros et ça pour le coup c'est une problématique qui sera toujours d'actualité chez les êtres humains. Donc effectivement j'ai trouvé que c'était intéressant l'histoire de ces loups qui sont en meute, mais qui sont en meute avec, semble-t-il, hein, on n'est pas dans leur tête et dans leur intimité, mais voilà, avec des règles quand même, avec des règles de fonctionnement, des règles de leadership. C'est ça que je trouvais aussi très intéressant, c'était de transposer ce qu'on suppose en tout cas de la vie des loups en meute à cette petite équipe et à son mode de fonctionnement. Et en plus, cette petite équipe est accompagnée par un chien loup qui est celui du héros Victor Chastel, qui s'appelle Oro, le vent, hein, en patois, et qui est un personnage de l'histoire intégralement.
Ok, donc à découvrir, hein, Cécile Baudin, La Constance de la Louve. Auprès de la cité, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore sur ce roman ?
Alors, je veux bien rajouter que près de chez vous, il y a le salon de d'Arsac-en-Velay.
Ah oui, j'allais vous poser la question. J'ai regardé.
Voilà, qui se tiendra les 6 et 7 avril.
5 et 6.
Pas très loin du Puy, et j'y serai, hein, avec d'autres auteurs. Mais,
oui.
Mais ceux qui auraient acheté le livre et souhaiteraient le faire dédicacer, ou qui souhaiteraient le découvrir à cette occasion, ou qui l'ont aimé et qui souhaitent découvrir mon histoire précédente, Marque de Fabrique, eh bien, qu'ils n'hésitent pas du tout à se rendre à Arsac-en-Velay au salon Livre Évasion les 6 et 7 avril prochains. Ce sera très sympa.
Oui, bah oui, hein, puisque je serai présent, j'y suis depuis le début.
Ah ben en plus.
Oui, j'y suis. C'est pour ça que je viens de recevoir la liste et il me semblait que je vous avais vu. Je viens de recevoir la liste de tous les auteurs qui seront présents et il m'a semblé que vous étiez là. C'est pour ça que c'est intéressant. En plus, c'est toujours bien pour les lecteurs de découvrir l'auteur du roman. Hein. Il y a les échanges. C'est ce qui est important dans les salons du livre et particulièrement dans celui d'Arsac-en-Velay qui est un salon très familier. Vous l'avez jamais... Ben non, parce que vous ne l'avez jamais fait.
J'y étais l'année dernière.
Ah, vous y étiez l'année passée ?
J'étais l'année dernière avec... Ouais, ouais. J'étais l'année dernière avec Marc de Fabrique et vous avez raison, c'est un salon à taille humaine, très familial, de lecteurs très passionnés, qui est très agréable. Et je suis d'autant plus ravie de le faire cette année que Arsac-en-Velay, c'est pas si loin de Langogne et de là où se passe la
Constance
de la Louve.
C'est à côté.
Voilà, c'est vraiment pas loin. Donc c'est tout indiqué pour présenter ce roman.
Alors c'est votre deuxième roman en fait, puisque l'autre c'était Marc de Fabrique, il n'y en a pas eu d'autre avant.
C'est ça.
Alors
Marc... non, il n'y en a pas eu d'autre avant.
Marc de Fabrique, alors je vois quand même que c'est un roman qui a plu parce que. On va l'adapter au cinéma. Alors, pour vous, ça doit être quand même extraordinaire, ça.
Ah ben, écoutez, très sincèrement, moi, il y a encore 2-3 ans, j'étais loin de tout ça et j'envoyais un manuscrit, en l'occurrence, c'était Marc de Fabrique, j'envoyais un manuscrit par la poste. Hein. Donc, lorsqu'on m'a rappelé et que dans l'année qui a suivi, effectivement, Marc de Fabrique est sorti, qu'il a été acheté en poche, il va bientôt sortir chez 10-18... et qu'il y a eu plusieurs prix, notamment le prix Canu à Lyon et une adaptation signée, je ne vous cache pas que j'ai l'impression d'être une petite fille qui débarque dans une fête foraine pour la première fois. Vous voyez, c'est très... j'avoue que c'est très, très étonnant et agréable.
Bah oui, ça fait toujours plaisir hein, de voir qu'on est reconnu parce que avant de mettre un roman au cinéma, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'atouts. Hein.
Oui, et puis je suis contente que le cinéma s'intéresse à nos régions françaises, à nos patrimoines industriels, ruraux, historiques. Il y a plein d'histoires formidables à raconter et à découvrir et à faire découvrir aussi à toutes les générations. Hein. Ça contribue aussi à la vitalité de nos territoires et de notre histoire. Donc je suis d'autant plus contente si ce type d'histoire peut être adapté pour le plus grand nombre.
Alors bon, il y a toujours la dernière question traditionnelle, bien sûr, à tous les auteurs. On sait que les auteurs ont toujours un prochain livre sous le coude. Est-ce que c'est votre cas ?
Oh là là, mais j'en ai toujours plein sous le coude.
Ah bon ?
Et le prochain est d'ores et déjà écrit. Il sortira donc pile dans un an, toujours chez Presse de la Cité. Il s'appellera « Dur comme fer ». Et on suivra cette fois une mystérieuse enquête qui se passera dans la Lorraine du fer. Vous savez, vraiment à la toute
du
19e, tout
d'accord.
Début 20e, dans les mines de fer et le milieu de la sidérurgie.
Très bien. Donc ça, c'est pour l'année prochaine.
C'est pour l'année prochaine.
Eh bien, écoutez, Cécile, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc avec un grand plaisir à Arsac. Et puis...
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous vos auditeurs. Et puis ravie de vous rencontrer pour de vrai à Arsac-en-Velay.
Voilà, nous aussi, on sera très heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, Cécile Baudin était notre invitée du jeudi avec son titre... de livre La Constance de la Louve aux Presses de la Cité, puisqu'on parle de Louve, eh bien, on va écouter Michel Thor. Michel Thor qui nous interprète tout simplement la Louve.
Quand la Louve frissonne à son premier printemps, quand elle tourbillonne de joie et d'émotion, ce sera mariage avec un jeune loup, un vrai loup de son âge, un vrai loup de chez nous. C'est comme nous, comme une histoire d'amour, c'est comme nous. Un peu plus chaque jour, c'est comme nous, comme moi, comme vous, on est tous un peu loups, on est tous un peu loups. Quand la Louve s'inquiète, qu'elle est bien fatiguée, voit le loup qui s'entrève, la soutient pour marcher, c'est comme nous, comme une histoire d'amour, c'est comme nous, un peu plus chaque jour, c'est comme nous, comme moi, comme vous. avoir trop travaillé. La vieille louve pleure, celui qui va manquer, c'est comme nous. C'est une histoire d'amour, c'est comme nous. Un peu plus chaque jour, c'est comme nous. Comme moi, comme vous. On est tous un peu loups. On est tous un peu loups.
It's back in town. Look at you, Louis Miller. Disappeared, dear. After drawing out his cash, and Mac Heath spends like a sailor.
Voilà, on va terminer cette émission en ayant parlé de la Constance de la Louve de Cécile Baudin aux Presses de la Cité avec La Vengeance d'une Louve, et c'est Brigitte qui nous interprète cela, La Vengeance d'une Louve.
Toi la nymphette, toi la vedette, toi les gambettes, à quoi tu joues avec mon mec? Je vais te faire la peau si tu traînes trop autour du père de mes petits coups beaux. Hey, toi la patronne, touche pas mon homme ou je te dégomme, tu vas goûter à mes torgnons. J'ai plus costaud qu'un petit oiseau, j'ai séché l'eau de mes maudits sanglots. Prends garde à mon corps, et ce n'est qu'un avant-goût. Tu me cherches, tu me trouves. Hey, toi la nouvelle, toi la rebelle, toi le mystère, moi sa bergère, la régulière. Croqueuse de poules au cœur de pierre, va faire des nouilles chez les célibataires. Il est fragile, c'est une victime, un superman à 3 centimes. Mais je suis pas tu, ce fils de pute, juste après toi, je m'occuperai de son cas.
Eh bien, cette émission est terminée. Je vous rappelle qu'elle est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous.
It's like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town.
Take it, Satch.